Chapitre 19. Monsieur de Jussieu, la vie revient, voyage aérien. Si nous nous transportons encore une fois dans cette maison de la rue Platrière où monsieur de Sartine envoya son agent, nous y trouverons, le matin du 31 mai, Gilbert, étendu sur un matelas dans la même chambre que Thérèse, et autour de lui Thérèse et Rousseau avec plusieurs de leurs voisins, contemplant cet échantillon lugubre du grand événement dont Paris frissonnait encore. Gilbert, pâle, sanglant, avait ouvert les yeux, et sitôt que la connaissance lui était venue, il avait cherché, en se soulevant, à voir autour de lui, comme s'il était encore sur la place Louis XV. Une profonde inquiétude d'abord, puis une grande joie s'était peinte sur ses traits. Puis était venu un autre nuage de tristesse qui avait de nouveau effacé la joie. « Souffrez-vous, mon ami ?» demanda Rousseau en lui prenant la main avec sollicitude. « Oh, qui donc m'a sauvé ?» demanda Gilbert. « Qui donc a pensé à moi, pauvre isolé dans le monde ?»« Ce qui vous a sauvé, mon enfant, c'est que vous n'étiez pas encore mort. » « Celui qui a pensé à vous, c'est celui qui pense à tous. »« C'est égal, c'est bien imprudent, grommela Thérèse, d'aller se mêler à de pareilles foules. »« Oui, oui, c'est bien imprudent, » répétèrent en chœur les voisines. « Eh, mesdames, » interrompit Rousseau, « il n'y a pas d'imprudence là où il n'y a pas de danger patent, et il n'y a pas de danger patent à aller voir un feu d'artifice. » Quand le danger arrive en ce cas, on n'est pas imprudent, on est malheureux, mais nous qui parlons, nous en eussions fait autant. » Gilbert regarda autour de lui, et se voyant dans la chambre de Rousseau, il voulut parler, mais l'effort qu'il tenta lui fit monter le sang à la bouche et aux narines, il perdit connaissance. Rousseau avait été prévenu par le médecin de la place Louis XV, il ne s'effraya donc point. Il attendait ce dénouement, et c'est pour cela qu'il avait placé son malade sur un matelas isolé et sans drap. « Maintenant, dit-il à Thérèse, vous allez pouvoir coucher ce pauvre enfant. »« Où cela ? Mais ici, dans mon lit. » Gilbert avait entendu. L'extrême faiblesse l'empêchait seul de répondre tout de suite, mais il fit un violent effort, et, rouvrant les yeux, « Non, dit-il avec effort, non, là-haut. » « Vous voulez retourner dans votre chambre ?»« Oui, oui, s'il vous plaît. » Et il acheva plutôt avec les yeux qu'avec la langue ce vœu dicté par un souvenir plus puissant que la souffrance et qui semblait dans son esprit survivre même à la raison. Rousseau, cet homme qui avait l'exagération de toutes les sensibilités, comprit sans doute, car il ajouta « C'est bien, mon enfant, nous vous transporterons là-haut. » « Il ne veut pas nous gêner, » dit-il à Thérèse, qui approuva de toutes ses forces. En conséquence, il fut décidé que Gilbert serait installé, à l'instant même, dans le grenier qu'il réclamait. Vers le milieu du jour, Rousseau vint passer près du matelas de son disciple le temps qu'il perdait d'habitude à collectionner ses végétaux favoris. Le jeune homme, un peu remis, lui donna d'une voix basse et presque éteinte les détails de la catastrophe. Il ne raconta pas pourquoi il était allé voir le feu d'artifice. La simple curiosité, disait-il, l'avait conduit sur la place Louis XV. Rousseau ne pouvait en soupçonner davantage, à moins d'être sorcier. Il ne témoigna donc aucune surprise à Gilbert, se contenta des questions déjà faites et lui recommanda seulement la plus grande patience. Il ne lui parla pas non plus du lambeau d'étoffe que l'on avait vu dans la main et dont Philippe s'était saisi. Cependant, cette conversation, qui pour tous deux côtoyait de si près l'intérêt réel et la vérité positive, n'en était pas moins attrayante, et ils s'y livraient l'un et l'autre tout entier, quand, tout à coup, le pas de Thérèse retentit sur le palier. « Jacques, dit-elle, Jacques !»« Eh bien, qu'y a-t-il ? » « Quelque prince qui vient me voir à mon tour, » dit Gilbert avec un pâle sourire. « Jacques !» cria Thérèse, avançant et appelant toujours. « Eh bien, voyons, que me veut-on ? » Thérèse apparut. « C'est monsieur de Jussieu qui est en bas, » dit-elle, « et qui, ayant appris qu'on vous avait vu là-bas cette nuit, vient voir si vous étiez blessé. » « Ah, ce bon Jussieu, » dit Rousseau, « excellent homme, comme tous ceux qui se rapprochent par goût ou par nécessité de la nature, source de tout bien. Soyez calme, ne bougez pas, Gilbert, je reviens. »« Oui, merci, » dit le jeune homme. Rousseau sortit. Mais à peine était-il dehors que Gilbert, se soulevant du mieux qu'il put, se traîna vers la lucarne, d'où l'on découvrait la fenêtre d'André. Il était bien pénible pour un jeune homme sans force, presque sans idée, de se hisser sur le tabouret, de soulever le châssis de la lucarne et de s'arc-bouter sur l'arête du toit. Gilbert y réussit pourtant, mais une fois là, ses yeux s'obscurcirent, sa main trembla, le sang revint à ses lèvres et il tomba lourdement sur le carreau. À ce moment, la porte du grenier se rouvrit et Jean-Jacques entra, précédant monsieur de Jussieu, auquel il faisait mille civilités. « Prenez garde, mon cher savant, baissez-vous ici. Il y a un pas, disait Rousseau. Dame, nous n'entrons pas dans un palais. » « Merci, j'ai de bons yeux, de bonnes jambes, » répondit le savant botaniste. « Voilà qu'on vient vous visiter, mon petit Gilbert, » fit Rousseau, en regardant du côté du lit. « Ah, mon Dieu, où est-il ? Il s'est levé, le malheureux !» Et Rousseau, apercevant le châssis ouvert, allait s'emporter en paternelle gronderie. Gilbert se souleva avec peine et d'une voix presque éteinte. « J'avais besoin d'air, » dit-il. Il n'y avait pas moyen de gronder, la souffrance était visible sur ce visage altéré. « En effet, interrompit monsieur de Jussieu, il fait horriblement chaud ici. Voyons, jeune homme, voyons ce pouls, je suis médecin aussi, moi. »« Et meilleur que bien d'autres, dit Rousseau, car vous êtes aussi bon médecin de l'âme que du corps. »« Tant d'honneur, dit Gilbert d'une voix faible, en essayant de se dérober aux yeux dans son pauvre lit. » « Monsieur de Jussieu a tenu à vous visiter, » dit Rousseau, « et moi j'ai accepté son offre. Voyons, cher docteur, que dites-vous de cette poitrine ?» L'habile anatomiste palpa les os, interrogea la cavité par une auscultation attentive. « Le fond est bon, » dit-il, « mais qui vous a donc pressé dans ses bras avec cette force ?»« Hélas, monsieur, c'est la mort, » dit Gilbert. Rousseau regarda le jeune homme avec étonnement. « Oh, vous êtes froissé, mon enfant, bien froissé, mais des toniques, de l'air, du loisir, et tout cela disparaîtra. »« Pas de loisir, je n'en puis prendre, » dit Gilbert, en regardant Rousseau. « Que veux-tu dire ?» demanda monsieur de Jussieu. « Gilbert est un résolu travailleur, cher monsieur, » répondit Rousseau. « D'accord, mais on ne travaille pas ces jours-ci. » « Pour vivre, » dit Gilbert, « on travaille tous les jours, car tous les jours on vit. » « Oh, vous ne consommerez pas beaucoup de nourriture, et vos tisanes ne coûteront pas cher. »« Si peu qu'elles coûtent, monsieur, » dit Gilbert, « je ne reçois pas l'aumône. »« Vous êtes fou, » dit Rousseau, « et vous exagérez. Je vous dis, moi, que vous vous gouvernerez d'après les ordres de monsieur, car il sera votre médecin malgré vous. Croyez-vous, » continua-t-il en s'adressant à monsieur de Jussieu, « qu'il m'avait supplié de n'en pas appeler ?»« Pourquoi ?» parce que cela m'eût coûté de l'argent et qu'il est fier. Mais, répliqua monsieur de Jussieu, qui considérait avec le plus vif intérêt cette tête expressive et fine de Gilbert, si fier que l'on soit, on ne saurait faire plus que le possible. Vous croyez-vous en état de travailler, vous qui, pour avoir été à cette lucarne, êtes tombé en route ? C'est vrai, murmura Gilbert, je suis faible, je le sais. « Eh bien alors, reposez-vous, surtout moralement. Vous êtes l'hôte d'un homme avec lequel tout le monde compte, excepté son hôte. » Rousseau, bien heureux de cette politesse délicate de grand seigneur, lui prit la main et la serra. « Et puis, ajouta monsieur de Jussieu, vous allez devenir l'objet des sollicitudes paternelles du roi et des princes. »« Moi ?» s'écria Gilbert. « Vous, pauvre victime de cette soirée, monsieur le dauphin, en apprenant la nouvelle, a jeté des cris déchirants. Madame la dauphine, qui se préparait à partir pour Marly, reste à Trianon afin d'être plus à portée de venir au secours des malheureux. »« Ah, vraiment ?» dit Rousseau. « Oui, mon cher philosophe, et l'on ne parle ici que de la lettre écrite par monsieur le dauphin à monsieur de Sartines. Je ne la connais pas. » C'est à la fois naïf et charmant. Le dauphin reçoit 2000 écus de pension par mois. Ce matin, son mois n'arrivait pas. Le prince se promenait, tout effaré. Il demanda plusieurs fois le trésorier, et celui-ci, ayant apporté l'argent, le prince l'envoya aussitôt à Paris avec 2 charmantes lignes à monsieur de Sartines, qui me les a communiquées à l'instant. « Ah, vous avez vu monsieur de Sartines aujourd'hui ?» dit Rousseau avec une espèce d'inquiétude, ou plutôt de défiance. Oui, je le quitte, répliqua Monsieur de Jussieu un peu embarrassé. J'avais des graines à lui demander. En sorte, ajouta-t-il très vite, que Madame la Dauphine reste à Versailles pour soigner ses malades et ses blessés. Ses malades, ses blessés, dit Rousseau. Oui, Monsieur Gilbert n'est pas le seul qui ait souffert. Le peuple n'a payé cette fois qu'un impôt partiel à la catastrophe. Il y a, dit-on, parmi les blessés, beaucoup de personnes nobles. Gilbert écoutait avec une anxiété, une avidité inexprimable. Il lui semblait à tout moment que le nom d'André allait sortir de la bouche de l'illustre naturaliste. Monsieur de Jussieu se leva. Ah, voilà donc la consultation faite, dit Rousseau. Désormais inutile sera notre science auprès de ce malade, de l'air, de l'exercice modéré, les bois. À propos, j'oubliais. Quoi donc? Je pousse dimanche prochain une reconnaissance de botaniste dans le bois de Marly. Êtes-vous homme à m'accompagner, mon très illustre confrère? Oh, repartit Rousseau, dites votre admirateur indigne. Parbleu, voilà une belle occasion de promenade pour notre blessé. Amenez-le. Si loin? Bah, c'est à 2 pas. D'ailleurs, mon carrosse me conduit à Bougival. Je vous emmène. Nous montons par le chemin de la princesse Alucienne. Nous gagnons de là Marly. À chaque instant, des botanistes s'arrêtent. Notre blessé portera nos pliants. Nous herboriserons tous deux, vous et moi, lui vivra. Que vous êtes un homme aimable, mon cher savant, dit Rousseau. Laissez faire, j'ai mon intérêt à cela. Vous avez, je le sais, un grand travail préparé sur les mousses, et moi j'y vais un peu à tâtons. Vous me guiderez. Oh, fit Rousseau, dont la satisfaction perça malgré lui. Là-haut, ajouta le botaniste, un petit déjeuner, de l'ombre, des fleurs superbes, c'est dit? À dimanche, la charmante partie, c'est dit. Il me semble que j'ai 15 ans. Je jouis d'avance de tout le bonheur que j'aurai, répondit Rousseau avec la satisfaction d'un enfant. Et vous, mon petit ami, affermissez vos jambes d'ici là. Gilbert balbutia une sorte de remerciement que Monsieur de Jussieu n'entendit pas, les deux botanistes laissant Gilbert tout à ses pensées et surtout à ses craintes. Cependant, tandis que Rousseau croyait avoir rassuré complètement son malade et que Thérèse racontait à toutes ses voisines que, grâce aux prescriptions du savant médecin, Monsieur de Jussieu, Gilbert était hors de tout danger, pendant cette période de confiance générale, le jeune homme courait au pire danger qu'il eût couru par son obstination et ses perpétuelles rêveries. Rousseau ne pouvait être tellement confiant qu'il n'eût au fond de l'âme une défiance solidement étayée sur quelque raisonnement philosophique. Sachant Gilbert amoureux et l'ayant surpris en flagrant délit de rébellion aux ordonnances médicales, il avait jugé que Gilbert retomberait dans les mêmes fautes s'il avait trop de liberté. Rousseau donc, en bon père de famille, avait fermé plus soigneusement que jamais le cadenas du grenier de Gilbert, lui permettant in petto d'aller à la fenêtre, mais l'empêchant en réalité de passer la porte. On ne peut exprimer ce que cette sollicitude qui changeait son grenier en prison inspira de colère et de projet à Gilbert. Pour certains esprits, la contrainte est fécondante. Gilbert ne songea plus qu'à André, qu'au bonheur de la voir et de surveiller, fût-ce de loin, les progrès de sa convalescence. Mais André n'apparaissait pas aux fenêtres du pavillon. Nicole seule, portant ses tisanes sur un plat de porcelaine, Monsieur de Tavernet arpentant le petit jardin et prisant avec fureur, comme pour éveiller ses esprits, voilà tout ce que voyait Gilbert quand il interrogeait ardemment les profondeurs des chambres ou les épaisseurs des murs. Cependant, tous ces détails le tranquillisaient un peu, car ces détails lui révélaient une maladie, mais non une mort. Là, se disait-il, derrière cette porte ou derrière ce paravent, respire, soupire et souffre celle que j'aime avec idolâtrie, celle qui, en se montrant, ferait couler la sueur sur mon front et trembler mes membres, celle qui tient mon existence et par qui je respire pour nous deux. Et là-dessus, Gilbert, penché hors de sa lucarne de façon à faire croire à la curieuse Chon qui s'en précipiterait 20 fois dans une heure, Gilbert prenait avec son œil exercé la mesure des cloisons, des parquets, la profondeur du pavillon, et s'en construisait dans son cerveau un plan exact. Là devait coucher monsieur de Tavernet, là devait être l'office et la cuisine, là la chambre destinée à Philippe, là le cabinet occupé par Nicole, là enfin la chambre d'André, le sanctuaire à la porte duquel il eût donné sa vie pour demeurer un jour à genoux. Ce sanctuaire, d'après les idées de Gilbert, était une grande pièce du rez-de-chaussée, commandée par une antichambre et sur laquelle mordait une cloison vitrée, cabinet présumé où Nicole avait son lit, selon les arrangements de Gilbert. « Oh !» disait le fou dans ses accès de fureur envieuse, « heureux les êtres qui marchent dans le jardin sur lequel plonge ma fenêtre et celle de l'escalier, heureux ces indifférents qui foulent le sable du parterre. Là, en effet, on doit entendre se plaindre et soupirer, mademoiselle André. » Tu désires à l'exécution, il y a loin, mais les imaginations riches rapprochent tout. Elles ont un moyen pour cela. Dans l'impossible, elles trouvent le réel, elles savent jeter les ponts sur les fleuves et appliquer des échelles aux montagnes. Gilbert, les premiers jours, ne fit que désirer. Puis il réfléchit que ces heureux, tant enviés, étaient de simples mortels, doués, comme lui-même, de jambes pour fouler le sol du jardin et de bras pour ouvrir les portes. Il en vint à se représenter le bonheur qu'on éprouverait en se glissant furtivement dans cette maison défendue, en frôlant de son oreille les persiennes par lesquelles filtrait le bruit de l'intérieur. Chez Gilbert, c'était trop peu d'avoir désiré, l'exécution devenait immédiate. D'ailleurs, les forces lui revenaient avec rapidité, la jeunesse est féconde et riche. Au bout de 3 jours, Gilbert, la fièvre aidant, se sentait aussi fort qu'il l'avait jamais été. Il supputa que, Rousseau l'ayant enfermé, une des plus grandes difficultés se trouve vaincue, la difficulté d'entrer chez mademoiselle de Tavernet par la porte. En effet, la porte ouvrait sur la rue Coq-Héron, et Gilbert, enfermé rue Plâtrière, ne pouvant aborder aucune rue, partant n'avait besoin d'aller ouvrir aucune porte. Restaient les fenêtres. Celle de son grenier donnait à pic sur 48 pieds de mur. À moins d'être ivre ou tout à fait fou, nul ne se fût risqué à descendre. « Oh, les portes sont de belles inventions, néanmoins, se répétait-il en rongeant ses poings. Et monsieur Rousseau, un philosophe, me les ferme. Arracher le cadenas, facile, oui, mais plus d'espoir de rentrer dans la maison hospitalière. » Se sauver de Lucienne, se sauver de la rue Plâtrière, s'être sauvé de Tavernet, toujours se sauver, c'était prendre le chemin de n'oser plus regarder une seule créature en face sans craindre un reproche d'ingratitude ou de légèreté. Non, monsieur de Rousseau ne saura rien. Et accroupi sur sa lucarne, Gilbert continuait. Avec mes jambes et mes mains, instrument naturel à l'homme libre, je m'accrocherai aux tuiles, et en suivant la gouttière, fort étroite il est vrai, mais qui est droite, et par conséquent le plus court chemin d'un point à un autre, j'arriverai, si j'arrive, à la lucarne parallèle à la mienne. Or, cette lucarne est celle de l'escalier. Si je n'arrive pas, je tombe dans le jardin, cela fait du bruit, on sort du pavillon, on me ramasse, on me reconnaît, je meurs, beau, noble, poétique, on me plaint, c'est superbe. Si j'arrive, comme tout me le fait croire, je file sous la lucarne de l'escalier, je descends les étages, pieds nus, jusqu'au premier, lequel a sa fenêtre aussi sur le jardin, c'est-à-dire à 15 pieds du sol, je saute... Hélas, plus de force, plus de souplesse. Ah, il est vrai qu'il y a un espalier pour m'aider. Oui, mais cet espalier au grillage vermoulu se brisera. Je dégringolerai, non plus tué, noble et poétique, mais blanchi de plâtre, déchiré, honteux et avec l'apparence d'un voleur de poire. C'est odieux à penser. Monsieur de Tavernet me fera fouetter par le concierge ou tirer les oreilles par la brille. Non, j'ai ici 20 ficelles, lesquelles unies font une corde. D'après cette définition de monsieur Rousseau, les fétus font la gerbe. J'emprunte à Madame Thérèse toutes les ficelles pour une nuit, j'y fais des nœuds, et une fois arrivé à ma bienheureuse fenêtre du premier étage, j'accroche la corde au petit balcon, ou même au plomb, et je glisse dans le jardin. La gouttière inspectée, les ficelles détachées pour être mesurées, la hauteur prise avec l'œil, Gilbert se sentit fort et résolu. Il tressa ses cordes de façon à faire de toutes ses ficelles une corde solide. Il essaya ses forces en se pendant à une solive du Galta, et, heureux de voir qu'il n'avait vomi qu'une fois le sang au milieu de ses efforts, il se décida pour l'expédition nocturne. Afin de mieux tromper M. Jacques et Thérèse, il contrefit le malade et garda le lit jusqu'à 2 heures, moment où, après son dîner, Rousseau partait pour la promenade et ne rentrait plus que le soir. Gilbert annonça une envie de dormir qui durerait jusqu'au lendemain matin. Rousseau répondit que, soupant le soir même en ville, il était heureux de voir Gilbert en des dispositions si rassurantes. On se sépara sur ces affirmations respectives. Derrière Rousseau, Gilbert détacha de nouveau ses ficelles et les tressa pour tout de bon cette fois. Il tâtonna encore la gouttière et les tuiles, puis se mit à guetter dans le jardin jusqu'au soir. Gilbert était ainsi préparé à son débarquement dans le jardin ennemi, c'est ainsi qu'il qualifiait tacitement la maison de Tavernet. Et de sa lucarne, il explorait le terrain avec l'attention profonde d'un habile stratégiste qui va livrer bataille, lorsque, dans cette maison si muette, si impassible, une scène se passa qui attira l'attention du philosophe. Une pierre sauta par-dessus le mur du jardin et vint frapper en angle le mur de la maison. Gilbert savait déjà qu'il n'y avait point d'effet sans cause, il se mit donc à chercher la cause, ayant vu l'effet. Mais Gilbert, quoiqu'en se penchant beaucoup, ne put apercevoir la personne qui, de la rue, avait lancé la pierre. Seulement, et tout aussitôt, il comprit que cette manœuvre se rattachait à l'événement qui venait d'arriver, seulement encore il vit s'ouvrir avec précaution l'un des contrevents d'une pièce du rez-de-chaussée, et par l'entrebâillement de ce volet passa à la tête éveillée de Nicole. À la vue de Nicole, Gilbert fit un plongeon dans sa mansarde, mais sans perdre un instant de vue l'alerte jeune fille. Celle-ci, après avoir exploré du regard toutes les fenêtres, et particulièrement celle de la maison, Nicole, disons-nous, sortit de sa demi-cachette et courut dans le jardin comme pour s'approcher de l'espalier où quelques dentelles séchaient au soleil. C'était sur le chemin de cet espalier qu'avait roulé la pierre, que non plus que Nicole, Gilbert ne perdait pas de l'œil. Gilbert la vit crosser d'un coup de pied cette pierre, qui pour le moment acquérait une si grande importance, la crosser encore devant elle et continuer enfin ce manège jusqu'à ce qu'elle fût au bord de la plate-bande sous l'espalier. Là, Nicole leva les mains pour détacher ses dentelles et en laissa tomber une qu'elle ramassa longuement et, en la ramassant, s'empara de la pierre. Gilbert ne devinait rien encore, mais en voyant Nicole éplucher cette pierre comme un gourmand fait d'une noix et lui enlever une écorce de papier qu'elle avait, il comprit le degré d'importance réelle que méritait l'aérolite. C'était en effet ni plus ni moins qu'un billet que Nicole venait de trouver roulé autour de la pierre. La rusée l'eut bien vite déplié, dévoré, mis dans sa poche, et alors elle n'eut plus besoin de regarder rien à ses dentelles étaient sèches. Gilbert cependant secouait la tête en se disant, avec cet égoïsme des hommes qui déprécient les femmes, que Nicole était bien réellement une nature vicieuse, et que lui, Gilbert, avait fait acte de morale et de saine politique en rompant si brusquement et si courageusement avec une fille qui recevait des billets par-dessus les murs. Et en raisonnant ainsi, lui, Gilbert, qui venait de faire un si beau raisonnement sur les causes et les effets, il condamnait un effet dont peut-être il était la cause. Nicole rentra, puis ressortit, et cette fois, elle avait la main dans sa poche. Elle en tira une clé, Gilbert la vit un instant briller entre ses doigts comme un éclair, puis aussitôt, cette clé, la jeune fille la glissa sous la petite porte du jardin, porte de jardinier située à l'autre extrémité du mur de la rue, parallèlement à la grande porte usitée. « Bon, dit Gilbert, je comprends. Un billet et un rendez-vous. Nicole ne perd pas son temps. Nicole a donc un nouvel amant. » Et Gilbert fronça le sourcil avec le désappointement d'un homme qui a cru que sa perte devait causer un vide irréparable dans le cœur de la femme qu'il abandonnait et qui, à son grand étonnement, voit ce vide parfaitement rempli. « Voilà qui pourrait bien contrarier mes projets, » continua Gilbert en cherchant une cause factice à sa mauvaise humeur. « N'importe, » reprit Gilbert après un moment de silence, « je ne suis point fâché de connaître l'heureux mortel qui me succède dans les bonnes grâces de mademoiselle Nicole. » Mais Gilbert, à certains endroits, était un esprit parfaitement juste. Il calcula aussitôt que la découverte qu'il venait de faire, et que l'on ignorait qu'il l'eût faite, lui donnait, sur Nicole, un avantage dont il pourrait profiter à l'occasion, puisqu'il avait le secret de Nicole avec des détails que celle-ci ne pouvait nier, tandis qu'elle soupçonnait à peine le sien, et qu'aucun détail ne venait donner corps à ses soupçons. Gilbert se promit donc de profiter de son avantage à l'occasion. Pendant toutes ces allées et venues, cette nuit si impatiemment attendue arriva enfin. Gilbert ne craignait plus qu'une chose, c'était la rentrée imprévue de Rousseau, Rousseau le surprenant sur le toit ou dans l'escalier, ou même encore Rousseau trouvant la chambre vide. Dans ce dernier cas, la colère du Genevois devait être terrible. Gilbert crut en détourner les coups à l'aide d'un billet qu'il laissa sur sa petite table à l'adresse du philosophe. Ce billet était conçu en ces termes. « Mon cher et illustre protecteur, ne concevez pas de moi une mauvaise opinion si, malgré vos recommandations et même vos ordres, je me suis permis de sortir. Je ne puis tarder à rentrer, à moins qu'il ne m'arrive quelque accident pareil à celui qui m'est arrivé déjà. Mais au risque d'un accident pareil et même pire, il faut que je quitte ma chambre pour 2 heures. » J'ignore ce que je dirai au retour, pensait Gilbert, mais au moins M. Rousseau ne sera pas inquiété ni mis en colère. La soirée fut sombre. Il régnait une chaleur étouffante, comme c'est d'habitude le cas pendant les premières chaleurs du printemps. Aussi, le ciel fut-il nuageux, et à 8h30, l'œil le plus exercé n'eut rien distingué au fond du gouffre noir qu'interrogeaient les regards de Gilbert. Ce fut alors seulement que le jeune homme s'aperçut qu'il respirait difficilement, que des sueurs subites envahissaient son front et sa poitrine, signe certain de faiblesse et d'atonie. La prudence lui conseillait de ne pas s'aventurer en cet état dans une expédition où toute la force, toute la sûreté des organes étaient nécessaires, non seulement pour le succès de l'entreprise, mais même pour la sûreté de l'individu. Mais Gilbert n'écouta rien de ce que lui conseillait l'instinct physique. La volonté morale avait parlé plus haut, ce fut elle, comme toujours, que le jeune homme suivit. Le moment était venu. Gilbert roula son petit cordeau en 12 cercles autour de son cou, commença, le cœur palpitant, à escalader sa lucarne, et s'empoignant fortement au chambranle de cette même lucarne, il fit son premier pas dans la gouttière vers la lucarne de droite qui, comme nous l'avons dit, était celle de l'escalier et se trouvait séparée de l'autre par un intervalle d'environ 2 toises. Ainsi, les pieds dans un conduit de plomb de 8 pouces de large au plus, lequel conduit, bien que soutenu de distance en distance par des crampons de fer, cédait sous ses pas à cause de la mollesse du plomb, les mains appuyées sur les tuiles auxquelles il ne fallait demander qu'un point d'appui pour l'équilibre, mais nullement un soutien en cas de chute, car les doigts n'avaient pas de prise, voilà quelle fut la position de Gilbert durant le trajet aérien qui dura 2 minutes, c'est-à-dire 2 éternités. Mais Gilbert ne voulait pas avoir peur, et telle était la puissance de la volonté de ce jeune homme qu'il n'eut pas peur. il se souvenait d'avoir entendu dire à un équilibriste que pour marcher heureusement sur les chemins étroits, il ne fallait pas regarder ses pieds, mais à 10 pas devant soi et ne jamais songer à l'abîme qu'à la manière de l'aigle, c'est-à-dire avec la conviction qu'on est fait pour planer au-dessus. Gilbert, au reste, avait déjà mis ses préceptes en pratique dans plusieurs visites rendues à Nicole, à cette même Nicole si hardie maintenant qu'elle se servait de clé et de porte au lieu de toit et de cheminée. Il avait ainsi passé sur les écluses des moulins de Tavernet et sur les poutres des toits dénudés d'un vieux hangar. Il arriva donc au but sans un seul frémissement et, une fois arrivé au but, se glissa, tout fier, dans son escalier. Mais, arrivé sur le palier, il s'arrêta court. Des voix retentissaient aux étages inférieurs. C'étaient celles de Thérèse et de certaines voisines qui s'entretenaient du génie de M. Rousseau, du mérite de ses livres et de l'harmonie de sa musique. Ses voisines avaient lu la nouvelle Héloïse et trouvaient ce livre graveleux, elles l'avouaient franchement. En réponse à cette critique, Madame Thérèse leur faisait observer qu'elle ne comprenait pas la portée philosophique de ce beau livre. Ce à quoi les voisines n'avaient rien à répondre, si ce n'est de confesser leur incompétence en pareille matière. Cette conversation transcendante avait lieu d'un palier à l'autre, et le feu de la discussion était moins ardent que celui des fourneaux sur lesquels cuisait le souper odorant de ces dames. Gilbert entendait donc résonner les arguments et rissoler les viandes. Son nom, prononcé au milieu de ce tumulte, lui causa un frisson désagréable. « Après mon souper, disait Thérèse, j'irai voir si ce cher enfant ne manque de rien dans sa mansarde. » Ce cher enfant lui fit moins de plaisir que la promesse de la visite ne lui fit de peur. Heureusement, il réfléchit que Thérèse, lorsqu'elle soupait seule, causait longuement avec sa dive bouteille, que le rôti semblait appétissant, que l'après-souper signifiait « à 10 heures ». Il n'en était pas 8h15. D'ailleurs, après souper, selon toute probabilité, le cours des idées de Thérèse aurait changé et elle penserait à tout autre chose qu'au cher enfant. Toutefois, le temps se perdait au grand désespoir de Gilbert lorsque tout à coup un des rôtis alliés brûla. Un cri de cuisinière alarmée retentit, cri d'effroi qui rompit toute conversation. Chacun se précipita vers le théâtre de l'événement. Gilbert profita de la préoccupation culinaire de ces dames pour glisser comme un sylphe dans l'escalier. Au premier étage, il trouva le plomb disposé pour recevoir sa corde, l'y fixa par un nœud coulant, monta sur la fenêtre et se mit lestement à descendre. Il était suspendu entre ce plomb et la terre quand un pas rapide retentit sous lui dans le jardin. Il eut le temps de se retourner en se cramponnant au nœud et de regarder quel était le malencontreux survenant. C'était un homme. Comme il venait du côté de la petite porte, Gilbert ne douta pas un instant que ce ne fût l'heureux mortel attendu par Nicole. Il concentra donc toute son attention sur cet autre intrus qui venait l'arrêter au milieu de sa périlleuse descente. À sa marche, à un soupçon de profil esquissé sous le tricorne, à une façon particulière dont ce tricorne était posé sur le coin d'une oreille qui paraissait de son côté fort attentive, Gilbert crut reconnaître le fameux beau sire, cet exempt dont Nicole avait fait connaissance à Tavernet. Presque aussitôt, il vit Nicole ouvrir la porte de son pavillon, s'élancer dans le jardin en laissant cette porte ouverte, et rapide comme une bergeronnette qui court, légère comme elle, se dirigeait vers la serre, c'est-à-dire du côté de l'endroit où s'acheminait déjà Monsieur Beausire. Ce n'était pas le premier rendez-vous de ce genre qui avait lieu, selon toute certitude, puisque ni l'un ni l'autre ne manifestait la moindre hésitation sur le lieu qui les réunissait. « Maintenant je puis achever ma descente, » pensa Gilbert, « car si Nicole a reçu son amant à cette heure, c'est qu'elle est sûre de son temps. André est donc seul, mon Dieu, seul !» on n'entendait au loin aucun bruit et l'on ne voyait qu'une faible lumière au rez-de-chaussée. Gilbert, arrivé au sol sans accident aucun, ne voulut pas traverser diagonalement le jardin. Il longea le mur, gagna un massif, le traversa en se courbant et arriva, sans avoir pu être deviné, à la porte laissée ouverte par Nicole. De là, abrité par une immense aristoloche qui grimpait jusqu'au-dessus de la porte et la festonnait amplement, il observa que la première pièce, antichambre assez spacieuse, ainsi qu'il l'avait deviné, était parfaitement vide. Cette chambre donnait entrée à l'intérieur par deux portes, l'une fermée, l'autre ouverte. Gilbert devina que la porte ouverte était celle de la chambre de Nicole. Il pénétra lentement dans cette chambre en étendant les mains devant lui de peur d'accident, car cette chambre était privée de toute lumière. Cependant, au bout d'une espèce de corridor, on voyait une porte vitrée dessinée sur la lumière de la pièce voisine les traverses qui enfermaient ses vitres. De l'autre côté de ces vitres, un rideau de mousseline flottait. En s'avançant dans le corridor, Gilbert entendit une faible voix dans la pièce éclairée. C'était la voix d'André. Tout le sang de Gilbert reflua vers son cœur. Une autre voix répondait à celle-là, c'était celle de Philippe. Le jeune homme s'informait avec sollicitude de la santé de sa sœur. Gilbert, en garde, fit quelques pas et se plaça derrière une de ces demi-colonnes surmontées d'un buste quelconque qui formait à cette époque la décoration des doubles portes en profondeur. Ainsi, en sûreté, il écouta et regarda, si heureux que son cœur se fondait de joie, si épouvanté que ce même cœur se rétrécissait au point de n'être plus qu'un point dans sa poitrine. Il écoutait et voyait.